Bonsoir les amis des livres et des apéros. Une mère, ça doit être stable. L'opinion publique est toujours un peu rassurée quand une femme s'adonne aux enfants, alors que papa est en voyage d'affaires. Pénélope Fillon ne dira pas le contraire. Et puis, une mère, ça ne déborde jamais, c'est toujours maîtresse d'elle-même. D'ailleurs, la fessée est désormais un péché éducatif. Un roc, un phare, un sol plat, c'est en gros ce que répètent les célébrités quand elles posent avec leur mère. Oh là là, mais c'est n'importe quoi, s'insurge la littérature. Oh, mais c'est pas vrai, en tout cas l'intelligence, c'est pas la mère de Dupont-Mono. Mais regardez du côté des livres, on n'a jamais fait un bon roman avec une mère sage, c'est d'un ennui. Prenez Françoise Sagan, une maman sage peut-être ? Tout comme la mère de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Elle était décalée, anticonformiste, et c'est pour ça qu'elle a inspiré un si beau texte. Olivier Bourdeau ne dira pas le contraire. Dans son roman En attendant Beau Jungles, la mère part acheter des huîtres et du vin blanc vêtue seulement de talons hauts. Ces mères-là n'ont jamais lu Laurence Pernoud, ni aucun guide de la maman parfaite, et c'est tant mieux. Et si vous en doutez encore, alors lisez Mon ciel et ma terre de Or Attica, c'est paru chez Fayard. Or Attica est actrice, bon ça d'accord, mais avant, c'est la fille de sa mère. Et c'est sa mère justement qu'elle raconte. Elle s'appelle Odette, mais on la surnomme Aude. C'est une femme des années 70. Elle ne prévoit jamais rien, pas même un métier, pas même un dîner. Le père est absent, mais les éclats de rire, nombreux. Sa petite fille, Or, la regarde avec adoration. Elle se laisse embarquer en Hollande, dans des fêtes ou au restaurant jusqu'à pas d'heure. Et quand elle rencontre une nouvelle camarade de classe, elle lui explique innocemment, du haut de ses 9 ans, la différence entre le chiite afghan et libanais. La fillette manque de repères, ça c'est sûr. Cela dit, elle ne manque pas d'amour. Alors, le temps d'un apéro, nous partagerons un amuse-bouche avec Or Attica, sans horaire ni contrainte. Elle nous livrera ses secrets d'écriture de bohème, ce sera le procès-verbal. Nous offrira ses goûts culturels loin des conventions, ce sera les inavouables. Avant qu'un libraire éternel amoureux de la fête ne vienne poursuivre cette ode à la liberté.
France Inter. L'amuse-bouche. Clara Dupont-Mono.
Bonsoir Or Attica.
Bonsoir Clara.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment de votre vie de femme, il y a eu ce besoin d'écrire sur votre mère ?
Je pense que c'est un concours de plusieurs circonstances. Ça a été, je pense, l'envie de redéfinir qui j'étais et d'où je venais. Je crois que ça a été un besoin de me redessiner en fait moi-même aussi. Et puis j'avais envie de revendiquer l'éducation qu'elle m'a donnée.
Elle s'appelle Odette. Elle veut pas en entendre parler, elle veut qu'on l'appelle Aude. Pourquoi elle n'aime pas Odette ?
Ah non, non, elle aimait bien, je pense, Odette, mais Aude, alors elle prononçait Aude, un O avec l'accent circonflexe, je pense que c'était pour donner encore de la poésie à son prénom, pour rajouter de la poésie dans tout, dans le quotidien.
Votre mère, elle s'inscrit à peu près parfaitement dans son époque.
En dépit des apparences, les hippies n'ont rien à voir avec une certaine faune désœuvrée qui hantait un moment les berges de la Seine. Au nihilisme et à la passivité des beatniks, ils opposent la foi et le dynamisme. Foi en l'homme et en sa bonté originelle et foncière, dynamisme dans la façon de proclamer la nécessité d'aimer son prochain. Un programme banal en somme, s'il ne s'y ajoutait de coutumes discutables, les hippies sont partisans d'une totale liberté sexuelle et de l'usage de produits hallucinogènes.
Les actualités françaises du 29 août 1967, avec les hippies.
Oui, j'aime beaucoup comment ils prononcent le mot.
Est-ce que votre mère, Or Attica, elle s'inscrit un peu là-dedans ? Est-ce qu'elle était un peu hippies ?
Je pense qu'elle l'était un peu, mais il n'y avait pas vraiment la proclamation de l'amour du prochain. C'était, en effet, il y avait une sorte de nouvelle liberté, de redécouvrir un peu, de redéfinir les contours de la société, d'aller voir ailleurs, d'aller voir de l'autre côté de la barrière. Donc prendre des drogues, c'était aussi un moyen de voir quelles étaient les vibrations ambiantes un petit peu, plus que juste ce qui est là sous nos yeux et ce qu'on peut tous voir, c'était voir s'il n'y avait pas autre chose.
Puis elle a une fibre artiste, Aude. Oui. Elle a fait notamment un film, et bien voilà comment elle en parlait de son film, c'était en mai 1978.
Oh là là. Il y avait aussi un climat que beaucoup de gens avaient ressenti dans leur vie, par exemple le fait qu'on filme un homme qui un matin au réveil se trouve seul dans une ville, ça touchait beaucoup de gens parce que chacun des gens à qui on parlait pendant le tournage avant, après, disaient « mais c'est vrai, qui de nous n'a pas eu une fois cette sensation d'être seul, ne serait-ce qu'après une émotion ou après un choc violent ou au cours d'une phase où on n'est pas bien, de sortir et de voir personne. La ville est pleine, mais vous voyez personne. »
La voix de votre mère, Or Attica, interviewée par Paul Ajac sur France Culture.
C'est drôle, c'est dingue. Je reconnais pas tellement sa voix, mais bon.
Et c'était quoi le film dont elle parlait? Est-ce que vous reconnaissez quand même le film?
Oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, je l'ai vu ce film. Le coup du singe, c'est l'histoire d'un homme, Jean-Pierre Calfon, qui se réveille un matin, qui est censé travailler dans un garage. Il se réveille chez lui pour aller bosser. Et il part bosser, il met son perfecto. À l'époque, on mettait des perfectos. Il part bosser et il n'y a personne. Mais il ne s'en rend pas compte tout de suite. Et il marche et il n'y a personne. Et Paris est complètement vide. Et il est là et donc après, il fait des rencontres, il rêve, etc. Mais il fait des rencontres... virtuel, enfin, il rêve en fait. Et la bonne idée que ma mère avait eue, c'est qu'ils avaient tourné le 25 décembre et le matin du 1er janvier à l'aube, place de l'Étoile, où en effet il n'y avait personne à ce moment-là. Donc ils avaient pu tourner sans autorisation, etc. La ville de Paris vide.
En écoutant la bande de cette interview, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression qu'elle parlait de la maternité tout en parlant de son film, et notamment quand elle dit ça.
Oui, c'était comme des obstacles à passer, parce qu'en fait, ce film, on avait le scénario qu'on avait était comme une base, et on a complètement improvisé dessus.
On a l'impression que pour elle, la maternité, c'est un peu pareil. Il y a la base de l'amour, et après, c'est de la grande impro. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Il y a de la base de l'amour physique et de la rencontre, je pense. Et après, c'est de l'impro. Oui, je pense que la légende qu'elle m'a racontée sur ma conception... à savoir de rencontrer cet homme, ils tombent un peu amoureux, ils prennent un acide, ils font l'amour, ils la regardent au fond des yeux. Et il lui dit « je t'ai fait un enfant, et 9 mois plus tard, je nais ». Voilà, ça c'est la légende qu'elle m'a toujours racontée, c'est l'histoire de ma conception. Oui, ben voilà, c'est la magie de la vie.
Quand on dit improvisé...
Elle ne fonctionnait qu'à l'instinct.
Oui, et ben justement, voilà. Elle fonctionnait qu'à l'instinct, et il y a quand même... Ça donne des scènes un peu remuantes pour l'enfant que vous êtes. Dans ce livre, il y a toute une partie que vous racontez, vous êtes du point de vue de l'enfant que vous étiez, mm-hmm. et d'autres parties où vous êtes adulte. Et lorsque vous êtes enfant, on voit défiler des scènes qui sont un peu remuantes. Par exemple, votre mère ramène un très joli meuble qu'elle a ramené d'Inde, elle le fracasse à coups de marteau, puisque dedans il y a de l'opium. Elle vous emmène à Amsterdam et elle fait des choses qui ne sont pas très licites sur le bord de l'autoroute. Vous, vous êtes à l'arrière de la voiture. Est-ce que, alors que vous étiez donc enfant, vous mesuriez à ce moment-là que c'était interdit?
Mais pas du tout. Pas du tout. Et ce que je trouve intéressant dans le premier chapitre dont vous parlez, où quand elle rentre d'Inde avec ce meuble, c'est que moi je ne vois pas du tout. Elle m'a juste dit je peux te confier un secret, je peux te faire confiance. Donc évidemment, oui. Et le secret sera bien gardé jusqu'à ce livre aujourd'hui, donc ça va. Mais y a quelque chose de... Moi, j'ai plus vu, je ne comprends pas pourquoi ce meuble qu'elle avait fait construire avec des mesures précises, elle avait peint elle-même les étagères, elle avait pris le soin de peindre des fleurs, des cerises, à la gouache, etc. Pourquoi tout d'un coup, elle le détruit à coups de marteau? En effet, elle sort ses plaques d'opium. Mais moi, c'est pas ça qui m'importe. C'est pourquoi elle casse ce qu'elle a patiemment construit. Et c'est un petit peu sa vie aussi.
Et ça ne vous angoisse pas en tant qu'enfant? C'est-à-dire que vous n'avez pas peur. Il y a une forme de sécurité qu'elle vous transmet quand même.
Mais je pense que la sécurité, je la trouvais à l'école et dans un... Et c'est moi, et on, c'était, vous savez, c'est comme un couple, hein, en fait. Chacun avait un rôle. Dans un couple, on a tous... Enfin, en tout cas, on s'installe chacun dans un personnage ou dans un rôle. Et là, ben, moi, j'étais aussi parfois sa mère. J'étais en tout cas, j'étais la personne stable et la personne sage de notre relation. Elle était un peu la faux-folle, je ne savais jamais ce qui allait se passer le soir, le lendemain, etc. Et puis elle adorait me demander conseil et que je lui donne ma pensée d'enfant.
Elle est née au Maroc, votre mère, mais pour le coup, les traditions familiales, c'est pas trop son truc. En revanche, c'est votre grand-mère qui prend le relais de ces traditions. Est-ce que c'était elle, cette espèce de garante un peu de l'histoire familiale et des traditions ?
Bien sûr, en tout cas, c'était la personne auprès de qui toute la famille se réunissait. Et puis, oui, il y a une sorte de respect toujours dans cette culture-là vis-à-vis de la grand-mère, donc oui.
Et puis, elle n'en veut pas à sa fille. Elle a un côté un peu résigné, un peu fataliste. Elle dit c'est comme ça. Sa fille est partie en Inde longtemps. Elle vous laisse donc auprès de la grand-mère. Et elle est assez zen, votre grand-mère. Elle vous fait des pâtisseries. Et puis bon, c'est la vie, quoi.
Oui, non, elle me disait, moi, jamais, même pour 1 milliard, jamais j'irai en Inde. Ils mangent par terre là-bas. Mais après, je ne sais pas ce qui... Parce qu'ils parlaient en arabe entre eux. Ma grand-mère et puis le reste de ma famille parlaient en arabe entre eux, donc moi je ne comprenais pas ce qu'ils se disaient. Donc je voyais bien que de temps en temps ça chauffait un peu, mais je disais pourquoi vous engueulez ? Ils disaient non, on discute en arabe, c'est comme ça.
Est-ce que vous avez écrit par flash. On a l'impression que vous avez écrit ce livre par des scénettes qui vous revenaient presque comme un peu des gifles. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, c'est bien vu. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est à chaque fois, je me suis mis comme dans un mini état de transe pour retrouver les épisodes les plus saillants. Parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas de raconter un quotidien ou de raconter des choses banales. Évidemment, c'était de raconter les épisodes les plus forts. Et après, ce sont des souvenirs de souvenirs. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne sait plus trop. Mais oui, et puis c'était du premier souvenir. En fait, je m'étais mis en tête avec du premier souvenir au dernier souvenir avec elle. Et à chaque fois, du point de vue de l'enfant. Donc, ça fait une écriture très différente. Et j'espère que l'écriture, enfin, qu'on le sent, que l'écriture évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire quand elle a, au début, 4-5 ans, c'est pas le même vocabulaire et la même façon de voir la mère qu'ensuite, quand elle a 14 ans, 15 ans, 17 ans, où les phrases sont plus construites, où c'est plus fluide. Mais oui, c'était par flash. Et puis, je faisais comme un travail de comédienne. Je me mettais dans la situation du personnage de l'enfant pour voir ce que j'avais vu ou ce que j'aurais aimé voir. Mais oui.
On a cherché une chanson pour Aude. Et oui, on a beaucoup pensé à elle. On l'a cherchée du côté de la liberté, de l'anticonvention, de l'amour de l'art, de l'excès. Voilà. Et on l'a trouvée, Janis Joplin.
Sur France Inter.
Or Attica est avec nous jusqu'à 20h pour son livre Mon ciel et ma terre, dans lequel l'actrice raconte sa mère. Vous avez follement aimé votre mère, Or Attica. Petite fille, vous adoriez ses pas de côté, son grain de folie. Et puis, ça arrive, mais la petite fille que vous étiez grandit. Et il y a une scène assez forte où vous invitez une copine à la maison. Et votre mère surgit toute nue devant vous deux, assez médusée. Et elle voit pas où est le problème, elle hausse les épaules en disant « Bah quoi, on est toutes faites pareilles ». Est-ce que c'est à ce moment-là que vous commencez à porter un regard différent sur elle, à lui en vouloir un peu d'être différente ?
Alors non, c'est pas à ce moment-là, parce que là, je suis encore un peu petite. Mais je sens déjà, voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me dis, il y a un truc qui cloche, je sens bien que tout ça n'est pas très normal. Parce qu'en plus, juste avant cette séquence où elle arrive à poil devant nous, il y a eu une autre séquence encore plus forte, que je ne veux pas raconter là. Et donc, en effet, je me dis, bon, je sais que dans les autres familles, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, il y a quelque chose de pas normal. Mais je ne suis pas encore au point de lui en vouloir ou de... Voilà, je suis juste dérangée, mais c'est tout.
Et ensuite, ça va aller grandissant.
Oui, mais après, je crois que c'est vraiment le parcours de toutes les adolescentes. C'est-à-dire qu'à un moment, sa mère, c'est plus son dieu, quoi. Il y a un moment où on la supporte plus.
Et vous réclamez un père, surtout. Du haut de vos 15 ans, vous dites, voudrais voir mon père. Comment ça se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'elle fait, votre mère ? Elle est réglo à ce moment-là, quand même.
Oui, elle a été classe. À ce moment-là, elle l'appelle. Elle lui dit, ta fille veut te voir, elle a besoin de te voir. Et donc, lui, il vivait en Bourgogne, donc je vais le voir en Bourgogne. Et ça se passe un peu très bien, comme si on s'était... Enfin, comme deux vieux potes, presque. Et voilà, ça se passe plutôt bien, même s'il est un peu bizarre. Je pense qu'il y a le passage quand je retourne le voir... Et j'arrive, donc il gérait un hôtel-restaurant avec sa mère, donc avec mon autre grand-mère que j'avais à peine vue. Et puis j'arrive, donc je retourne le voir une deuxième fois et j'arrive dans la cuisine et il me dit « Tu remarques quelque chose ? Il y a quelque chose qui a changé ?» Donc je regarde tout autour, les casseroles sont toujours là, la peinture est toujours jaune, ça n'a pas été repeint, les meubles n'ont pas bougé. Donc je cherche, je fais « Non, je ne vois pas ». Il me fait « Mais si, il cherche !» Donc je regarde encore. « Non, les casseroles toujours pareilles, les verres. » La table, la toile cirée pourrie, pareil. Fait, ta grand-mère est morte. Elle s'est suicidée dans l'étang. Je comprends pas comment elle a fait, il n'y avait même pas un mètre de profondeur.
C'est sûr que c'est un peu atypique, on va dire.
Voilà. Je trouve la scène tellement drôle.
Vous avez tourné dans un film qui s'appelle Copacabana, en 2010, avec Isabelle Huppert et sa fille d'ailleurs, Lolita Chama. Mm-hmm. L'histoire d'une mère et d'une fille qui s'accrochent.
Esmeralda, qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui se passe, c'est que j'en ai ras-le-bol, voilà ce qui se passe. Je me suis débrouillée pour venir passer un dimanche avec toi et je me retrouve face à deux losers qui me saoulent avec leur histoire de piercing, de dreadlock, d'autostop. Et je te vois, toi, complètement admirative, là, en train de voir leurs paroles. Oh, tu te rends compte, elle fait jouer du djembé, c'est trop génial. Mais c'est juste la honte. Mais qu'est-ce qui t'épate chez eux ? C'est ça que je comprends pas. Si au moins ils étaient originaux, s'ils se démarquaient un peu des autres, mais ils sont juste archi prévisibles. Tu sais que tu vas dans n'importe quel rêve, t'en trouves des centaines comme eux.
Oui, en attendant, heureusement qu'elles étaient là, parce que s'il fallait compter sur toi pour faire la conversation...
Tu veux que je te dise pourquoi je les apprécie ? Parce qu'avec eux, je me marre. Parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils sont libres. Voilà. Mais attends, mais libres de quoi ? Ils sont juste obligés de demander pour bouffer.
Mais alors, toi, tu te crois libre, peut-être, hein ?
Cette scène de Copacabana, Or Attica, m'a
il
fait...
Il est super, ce film.
Oui. M'a fait penser, en tout cas, au lien, à un moment qu'il y a un peu entre votre mère et vous... Est-ce que vous lui reprochez, à ce moment-là de votre vie, un peu comme la scène qu'on vient d'écouter, finalement, de n'avoir pas assez grandi ?
Non, je pense que je ne suis pas encore... j'ai pas eu l'occasion de passer à ce stade. Je pense qu'il n'y a pas eu ça, parce qu'après, elle est tombée malade, etc. Mais en effet, moi, en tout cas, je me raccrochais à tout ce qui était carré à l'école. Quand elle part en Inde, elle me dit « Tu vas me rejoindre dans cet ashram, ce sera super, tu seras habillée en orange et tu auras ton propre éléphant. » Et tu iras à l'école en éléphant. Et moi, je disais non, moi, je suis bien avec Madame Ravanier à l'école.
Et vous écrivez, je veux une mère qui travaille, je voudrais manger des frites à la maison, qu'on aille au moins une fois au Club Med et qu'on fête Noël. Ce que vous voulez à 15 ans...
Je suis toujours pas allée.
Mais ce que vous désiriez, c'était une certaine normalité, en réalité.
Oui, mais parce que tous les enfants, ils veulent pas se démarquer de leurs copains. Enfin, c'est rare, en fait, des enfants qui veulent se démarquer, ils veulent faire partie de la bande. Donc, je pense que c'était très... Très sain. Mais après, oui, après, plus tard, quand je tombe sur ses écrits, où je suis déçue de ses écrits, où je trouve qu'ils sont un peu légers, un peu superficiels, en effet, là, je commence à lui en vouloir de ce qu'elle n'a pas accompli et construit. Mais c'était plus dans une révolte adolescente, je pense.
Il y avait quand même un cas de figure un peu particulier. Et là, vous en parlez comme si c'était une mère absolument, entre guillemets, normale, pas fantasque. Mais non.
Parce que moi, je la voyais pas anormale. Ouais. C'est par votre regard que vous me soulignez qu'elle est fantasque, mais moi je la voyais normale.
Pourtant, il y a quelque chose d'assez étrange et intéressant, c'est que quand vous avez cette normalité sous la main, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes jeune adulte, on a aussi le versant de Horatica qui raconte donc, dans ce livre avec le point de vue d'adulte, vous êtes adulte, vous êtes maman, vous êtes en famille, c'est un dimanche, il y a tout le monde autour de la table, c'est la félicité, et vous ne supportez pas. Vous vous levez, vous mettez ça...
Et je le mets encore plus fort.
Voilà que la radio.
Je le mets tellement fort qu'on peut plus se parler.
C'est du David Bowie. Pourquoi est-ce que vous envoyez tout valdinguer quand justement vous avez créé, vous, ce bonheur entre guillemets normal ?
Parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était justement, c'était inhabituel pour moi d'être dans une situation aussi paisible, sereine, dans une situation en plus de couple, avec enfants, un dimanche, des jus de fruits frais, etc. Tout était parfait, entre guillemets. Et c'était trop violent pour moi. Je n'avais pas l'habitude de cette sérénité. Pour moi, je le vivais comme quelque chose de très violent. Et j'avais besoin de me raccrocher. Genre, non, mais moi, je ne fais pas partie de votre monde. Moi, je viens de là. Et je revendique ça. Il y avait comme une sorte de bouée de secours pour moi. Je crois que David Bowie, pour moi, était une bouée de secours à ce moment-là.
C'est-à-dire enfant du désordre. Vous étiez habitué au désordre.
Oui, et puis aussi, ça va pas m'aller, moi, cette vie du dimanche, du poulet frites, ça va pas m'aller. Hein. La vie, c'est pas que ça, la vie, c'est aussi du rock'n'roll. Et il faut que vous le sachiez, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça.
Est-ce que le fait de devenir mère à votre tour vous a donné plus, entre guillemets, d'indulgence sur votre mère ou a changé votre regard sur, du coup, votre mère ?
Oui, alors je me suis rendu compte de choses que... Bah, par exemple, l'épisode du retour d'Inde avec la drogue, je m'en suis rendu compte qu'en l'écrivant, que ça aurait pu être grave. Enfin, que si elle avait été arrêtée à la douane, j'aurais pas eu de mère pendant 15 ans. Ça, je m'en étais pas rendu compte avant. Donc vous voyez, j'étais encore un peu dans ma bulle. Mais oui, je vois avec ma fille, oui, je suis très très responsable. Très très... pas parfaite, mais presque. Même si... tout n'est pas facile, mais par rapport à ma mère, non, je regrette de ne pas avoir plus sa folie. J'envie un peu sa folie. Moi, je suis beaucoup plus raisonnable.
Vous écrivez maman quand vous en parlez petite fille, vous dites ma mère quand vous êtes adulte. Pourquoi ?
Ben là, je pense que c'était un truc d'écriture, de mise à distance. C'est ouais. Où j'étais dans le personnage de l'enfant, où... Allez-y, je pense que vous voulez avoir votre regard, vous avez une explication que je n'ai pas.
Non, c'est que je me disais qu'on pouvait aussi dire maman une fois qu'on est devenue grande. Il y a aussi l'idée peut-être de mu de la petite fille qui est devenue jeune femme et effectivement qui met à distance, mais peut-être parce qu'il y a trop d'amour ou peut-être parce que justement la maman est encore trop présente.
Mais maintenant, pour moi, c'est impossible de dire maman. Enfin, à qui ça s'adresse ?
Votre mère ?
Oui, non, bah oui, mais je dis ma mère. Enfin, maman, c'est quand on s'adresse à quelqu'un. Enfin, pour moi, on s'adresse à une personne, donc elle est là.
Est-ce que vous avez lu le livre « Rien ne s'oppose à la nuit » de
oui.
Delphine de Vigan ?
Oui.
Eh bien, écoutez comment est-ce que Delphine de Vigan définit sa mère, alors qui pour le coup était malade, mais qui lui a apporté certaines choses irremplaçables.
Son anticonformisme, sa manière d'être au monde, finalement, était peut-être la seule vraie. Il y avait, même si elle a confondu à plein de moments le réel et la fiction, et bien sûr que c'était un tout petit peu compliqué parfois pour ses proches, au bout du compte, elle était dans une espèce d'absence de concession. C'est-à-dire que tous ces petits compromis ordinaires qui font que parfois le soir on se couche en se disant est-ce que on a bien fait, etc. Je pense que ma mère ne vivait pas ça. C'est quelqu'un qui avait une capacité d'observation, de silence, qui était assez exceptionnelle.
L'héritage de votre mère, du coup, Horatica, vous le définiriez comment ? Qu'est-ce qu'elle vous a laissé ?
En tout cas, dans ce passage, je trouve ça génial quand elle dit qu'elle se couchait, il n'y avait pas d'idée de compromis. Ça, c'est quand même c'est génial de se dire de n'avoir aucun regret en se couchant le soir. Ma mère m'a laissé le goût de l'indépendance, alors qui, elle, chez elle, était poussée à l'extrême. Je pense qu'elle était ivre d'indépendance, ce qui fait qu'elle n'arrivait à faire aucun compromis sur rien et n'est arrivée à pas construire beaucoup de choses finalement, mais elle m'a donné ça, la curiosité, le goût de l'art, le goût du beau, l'esthétisme et l'indépendance et le goût du voyage, de l'aventure.
Et pas assez de folie, du coup.
Ouais.
Vous
ça,
en avez...
ça, c'est de ma faute.
Non. Vous dites, j'ai continué à la protéger dans mon souvenir. Est-ce que pour vous, l'écriture, ça permet ça? Ça permet de la protéger?
Bah, je sais pas, j'étais partagée. C'était de la jeter en pâture et en même temps... c'est difficile, hein. C'était parce que c'est un portrait d'elle, mais qui ne sera jamais juste, évidemment. Ça n'est que mon portrait, que mon petit gribouillis à moi. Oui, en tout cas, je continue à la. C'est une manière de la faire vivre et en même temps de la sortir de moi.
Et c'est un acte assez intime d'écrire sur sa mère. Vous qui êtes actrice et qui, d'ordinaire, être cachée derrière un rôle, là, vous avancez toute nue. Est-ce que vous avez hésité, du coup, avant d'écrire ce livre ?
Oui. Oui, parce que j'avais peur de rentrer dans la pipellerie, dans le déballage, dans le témoignage. Je voulais que ça reste un objet littéraire. Je voulais qu'il y ait de l'écriture, je voulais qu'il y ait une musique particulière, je voulais qu'il y ait un peu de poésie, entre guillemets. Enfin, voilà, je voulais qu'il y ait une écriture et pas que ce soit juste un témoignage. C'était pas intéressant.
Mais c'est pour ça que vous êtes là, pari gagné, du coup.
Bon, super.
Et d'ailleurs, en parlant d'écriture, il est temps de nous livrer vos secrets. Donc, votre mère, Odette, aurait détesté le côté interrogatoire, mais c'est ainsi, c'est le procès-verbal. Votre nom ?
Attika.
Votre prénom ?
Or.
Vous écrivez assise, couchée ou debout ?
Assise, hein, ou demi-assise.
Demi-assise, c'est-à-dire ?
C'est un peu couchée, enfin assise.
Devant une table ?
Devant une table, devant une table.
Sur ordinateur ou sur papier ?
Sur ordinateur.
Vous êtes chez vous ou vous êtes au café, par exemple ?
Chez moi.
Vous avez un petit rituel quand vous écrivez ? Est-ce que vous buvez des litres de tisane ? Est-ce que vous tordez vos cheveux ? Est-ce que vous fumez ?
Non, je m'isole et je plutôt de préférence le matin.
Quand vous écrivez, vous êtes plutôt apprêtée, maquillée, coiffée ou au contraire, c'est plutôt ébouriffée, pyjama pilou ? Grand laisser-aller.
Grand laisser-aller.
Alors vous êtes en pleine période d'écriture, ça sonne, est-ce que vous décrochez ?
Non.
Votre
non,
pause.
Non, parce qu'il faut se concentrer, il faut des plages de concentration, sinon on n'y arrive pas.
Votre pause, P-A-U-S-E, elle ressemble à quoi ?
Ma pause, ça va être aller au frigo, checker mes mails. Ouais.
Vous avez pleuré ou éclaté de rire en écrivant ce livre ?
Pleuré.
Donnez-moi un mot pour définir la seconde juste avant de vous mettre à écrire.
Volonté difficile.
Donnez-moi un mot pour la seconde qui a suivi le point final.
Le dernier point final de... Ouf.
Merci Aurathika pour ce procès verbal. Est-ce que tu m'aimes ? C'est la question que tous les enfants posent à leurs parents, réciproquement. C'est pourquoi nous avons hâte d'entendre « Est-ce que tu m'aimes ?» de Gilles Caplan. La transition, hein, Aurathika, quand même.
Tu me dis, il faut être raisonnable. Le temps recouvre nous, c'est du sable. Quand je n'abrite aucune seule flamme, quand je recherche trop le drame, tu te dis les charbons et les braises. Oh mon Dieu, comme tout ça me pèse. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Mon amour serait-il trop fort? Toi paisible qui se tient près du bord, moi qui marche tout en déséquilibre et recherche ta cage. Être libre. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? raisonnable. Le temps recouvre nous, c'est du sable. Quand mes sentiments font une cascade, tu me dis qu'il faut être plus aimable.
Vous écoutez l'Amuse-Bouche jusqu'à 20h avec Horatica pour Mon ciel et ma terre, une ode à sa mère. Eh bien, figurez-vous, Horatica, que l'Amuse-Bouche a des centaines de mamans. Et parmi elles, il y a même des garçons. Mais oui, ce sont les libraires. Et justement, comme tous les enfants en colonie de vacances, c'est l'heure du coup de fil de maman. En général, c'est vers ces eaux-là. Ah, que disais-je, n'est-ce pas? Allô?
Allô, bonjour, c'est Julie, pour j'appelle pour l'apéro.
Oh, une maman libraire. Et dites-moi, vous ne seriez pas Julie Bach de la librairie Lamandier à Puteaux?
Tout à fait.
Oh, une maman de Puteaux. En parlant de Puteaux, on embrasse Joël Secaldi-Renaud, la mère hein, de Puteaux. Voilà, vêtue de probité candide et de lin blanc, comme dirait Victor Hugo. Julie, quelle est la situation la plus farfelue ou la plus adorable que vous avez vécue dans votre boutique?
Alors, on a eu beaucoup de situations farfelues, mais celle qu'on trouve la plus adorable, c'est une famille de clients qu'on connaît depuis 10 ans, en fait. Hein. C'est un monsieur et sa femme qui viennent depuis le début, qui sont fous de livres et qui viennent avec leur fille qu'on a vu grandir. Et récemment, ils sont venus, le papa est venu avec une de ses filles. Il était avec son propre papa à lui qui manifestement est la personne qui lui a donné le goût des livres. Ils sont restés, la petite est allée au fond en jeunesse pour regarder les livres comme elle fait toujours. Eux, ils ont regardé les livres adultes entre eux, ils ont pas mal papoté, et puis ils sont restés, je pense, une demi-heure, trois quarts d'heure, vraiment pas mal de temps. Et puis ils s'en vont, au revoir, à bientôt. Et c'était la fin de la journée. Et tout d'un coup, au moment de fermer, on entend une petite voix qui arrive et qui nous dit « Je crois que papa m'a oublié. »
Hein, ils avaient oublié la petite fille.
Et voilà. Et ben nous aussi. Et ben lui aussi.
Remarquez, il vaut mieux être abandonné dans une librairie que dans une station-service.
Ouais. Exactement. Et c'est ça qui était assez rigolo. C'est parce qu'en fait, elle avait 5-6 ans, je crois. Hein.
Ouais.
On s'est penché par-dessus le comptoir en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Bon, on a dit « T'inquiète pas, on va appeler ton papa. » On a appelé son papa, qui n'était pas très à l'aise du coup, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là. Et ce qui était super mignon, c'est qu'en fait, la petite, elle n'était pas du tout en panique. On lui a dit « Écoute, on a appelé papa, il va venir te chercher si tu veux, on te raccompagne. » Elle dit « D'accord, ben je vais retourner au four regarder les livres. » Et elle est restée là, elle a attendu que son papa la revienne. Donc ça, c'était génial parce qu'elle était chez elle, en fait.
C'est bien, voilà, ça vous fait une cliente ad vitam, là.
Vous avez...
Je pense. Ouais,
carte fidélité pour toute la vie. Et Julie, quel livre conseilleriez-vous à notre invitée, Horatica?
Alors, bonsoir, Or.
Bonsoir.
Eh bien, moi, j'ai très envie de lui parler d'un des 6 livres qu'a écrit Maya Angelou, donc cette noire américaine, poète, écrivain, cinéaste, et qui a beaucoup lutté pour les droits civiques et qui a consacré 6 livres à sa vie, en fait, qui est une vie assez étonnante. Et parmi ces 6 livres, il y en a un qui s'appelle Lady B.
Et c'est sur sa mère.
Et qui est consacré à sa maman.
D'accord.
Et alors, Lady B, en fait, c'est le nom que Maya Angelou donnait à sa mère, parce que là où la maman de Maya Angelou est pas vraiment comme les autres mamans, c'est que quand Maya Angelou avait 3 ans et son frère 5 ans, elle a trouvé que c'était compliqué de s'occuper des enfants, qu'elle n'arrivait pas à faire sa vie de couple. Elle a donc envoyé ses enfants chez leur grand-mère, et ils y sont restés 10 ans.
Ah, quand même, c'est un long voyage.
Elle s'est pas occupée d'eux pendant 10 ans. Alors Maya Angelou explique très bien comment elle en a voulu à sa maman, comment le grand frère a mis beaucoup de temps à pardonner à sa maman. Et donc 10 ans après, la maman les a récupérés. Et en fait, tout le livre raconte la découverte de cette maman et le lien et l'amour, mais absolu, qui s'est noué entre elles deux. Et c'est une vraie merveille, parce que c'est une maman absolument formidable, qui a tellement aidé, encouragé, poussé ses enfants après. et qui disait que pour les petits, elle n'était pas forcément une bonne mère, mais que pour les jeunes adultes et les adultes, et c'était une femme comme Maya Angelou qui a énormément lutté pour les droits des femmes et pour l'émancipation, les droits des Noirs américains.
Voilà.
Et c'est, toute cette période-là est décrite de façon incroyable, et d'ailleurs, elle a fait de sa fille le personnage de Maya Angelou, qui est quand même une sacrée...
Et ses livres sont au programme des écoles américaines, d'ailleurs. Hein.
Merci, ça me donne envie.
Ouais, je vous donnerai, vous le redonnez, quel éditeur, Julie, vous pouvez nous le redonner?
Alors oui, ça a été publié chez Buchet-Chastel, et là, c'est sorti récemment au livre de poche.
Merci Julie Bac de la librairie Lamandier à Puteaux. Merci au magazine Page, la revue des libraires, partenaire de la Muse-Bouche. Julie, on vous attend pour l'apéro, entre mamans, ça va de soi. À tout de suite.
Merci beaucoup.
C'est l'heure des inavouables. Et oui, Oratika, on a beau être la reine des actrices, on n'en est pas moins femme. Donc faillible, c'est une grande phrase. Y a-t-il une chanson, un film, catalogué un peu ringard, que vous aimez en toute discrétion?
Oui, en toute discrétion.
Dit-elle en baissant la tête.
Je regrette, je m'excuse. Je regrette, pourquoi je dis ça? Oui, parce que je l'ai entendu, je devais avoir, je sais pas de quelle année elle date, mais je devais être jeune adolescente, et tout d'un coup, je me suis sentie une femme guerrière, et donc ça s'appelle Femme des années 80 de Michel Sardou.
Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi, Colombine, Carlequin, sachant bien noter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes, être un PDG en bas noir.
Alors j'ai Oratika devant moi qui a les mains levées. Vous disiez que votre mère vous a pas assez légué de folie. Si, si, il y en a un petit peu quand même. Hein. Je vous rassure. Et pourquoi cette chanson-là, Être une femme?
Non mais c'était Femme des années 80. Il y avait un truc, la nouvelle femme qui sait tout faire. Je sais pas. Elle m'a parlé, cette chanson, voilà.
Passer ça sur France Inter, je risque un procès. Hein. Vous êtes quand même consciente de ça. Et je vous signale que ça n'est pas nouveau, parce que dans les films Skylab, sorti en 2011, de Julie Delpy, vous défendiez Michel Sardou. On a retrouvé ça.
Oui, on en avait beaucoup ri. Oui.
Non, mais nous, on évite le plus possible. C'est toujours des conneries, toujours les mêmes. Claude François, Johnny Hallyday, Sardou.
Putain, Sardou, il a des très belles chansons, surtout les paroles, si t'écoutes bien.
Voilà, ça c'était vous qui déjà entreprise de réhabilitation de Sardou, en tout cas sur France
Inter. Parce que Julie Delpy, dans son film, parlait aussi de ses parents et des années 70 à fond. Et moi, j'interprétais une de ses belles-sœurs, très limite facho, quoi.
Est-ce qu'il y a un classique qui vous tombe des mains? Un grand chef-d'œuvre, vous n'y arrivez pas?
Oui, j'ai essayé deux fois. C'est L'homme sans qualité de Musil.
De Robert Musil.
Je sais pas, j'accroche pas au bout de 20 pages.
Lui non plus, parce qu'il en est mort. Hein. Il l'a laissé inachevé.
Voilà. Bon, mais c'est peut-être très bien. Hein. Il paraît que c'est bien. Mais...
Et vous réessayerez ou pas?
Peut-être, mais j'ai déjà pas mal d'autres bouquins à lire.
À commencer par celui de Lady B. De Maya Angelou, voilà, recommandé par notre libraire. C'est sur ces paroles que nous rangeons les amuse-bouches pour passer à table. Venez avec vos mères, vos pères, vos belles-mères même, c'est dire si on est fou. Mon ciel et ma terre de Oratika est paru chez Fayard. La semaine prochaine, nous recevrons Étienne de Montetti pour L'amant noir, paru chez Gallimard. L'amuse-bouche a plusieurs mamans, Marion Lelay, Claire-Sophie Collet, Thierry Dupin et Gilles Gaillard, avec un peu de barbe et des lunettes. Après les infos, vous retrouverez Zoé Varier dans D'ici d'ailleurs. Bonne semaine, nous sommes tous ces enfants des livres, alors on les remercie, c'est eux, nos mamans. On vous embrasse et à samedi.
Merci.